voix nue. Cette semaine, Zoé Sfès s'entretient avec Suzy Morgenstern. Ce soir, je n'ai jamais vraiment quitté l'enfance.
Bonjour Suzy Morgenstern.
Bonjour Zoé.
Bonjour, je suis ravie, quelle joie de passer cette semaine en votre compagnie. Alors on est ici chez votre fille à Paris et vous êtes une niçoise, une américano-niçoise. Les enfants, beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants qui sont devenus adultes vous connaissent très bien parce qu'ils ont grandi avec vos livres, c'est mon cas. Vous êtes, alors je ne sais pas si vous aimez le mot, une grande dame. On dit une star de la littérature jeunesse.
Vieille dame. Quand j'ai commencé, il y a 45 ans, j'étais la plus jeune. Et maintenant, partout où je vais, je suis la plus vieille. C'est dur.
Alors, vous avez écrit plus d'une centaine de livres. Ça a commencé, je crois, vers la fin des années 70. Des best-sellers absolus pour la plupart d'entre eux. Lettre d'amour de 0 à 10, qui est d'ailleurs adapté en bande dessinée et qui était en lice pour le Grand Prix d'Angoulême. Joker, la série de La Famille, Trop de filles, Accroche-toi, Super moyen, C'est pas juste. Vous écrivez pour quasiment tous les âges de l'enfance, on va en parler. Des premières lectures aux romans qui accompagnent l'entrée des adolescents dans la lecture. La plupart de ces livres sont traduits dans le monde entier. Je sais pas dans combien de langues, vous allez nous le dire. 30 langues.
Je crois à peu près, oui.
30 langues. Plusieurs dizaines de prix aussi, dont un premier, je crois, important, le Grand Prix de la littérature jeunesse, c'était en 82 pour C'est pas juste, mais il y en a une dizaine pour Lettre d'amour de 0 à 10. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez aussi vécu, et ça c'est très intéressant, accompagné, incarné cet grand engouement en France pour la littérature jeunesse qui n'a fait cesser d'augmenter au fil des années. Aujourd'hui, la littérature jeunesse, c'est une des locomotives de l'édition. Sur le site d'une maison qui a compté dans votre vie, l'École des loisirs, on en parlera, on lit sur votre biographie, il faut lire Suzy Morgenstern, il faut l'écouter parler, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tant son verbe est chaleureux et son écriture est un bonheur. Alors cette patte, on a aussi eu le plaisir de la découvrir dans des romans pour adultes. Vous vous êtes mis à écrire relativement tard. Pour les adultes, on en parlera, Jacques Addy, Fleur tardive. Vous avez écrit beaucoup à quatre mains avec vos filles, Alia et Maya. C'est Alia qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, c'est important, pour ceux qui vous connaissent, vous êtes une figure publique. Vous êtes née aux États-Unis, vous avez cette image caractéristique, cet accent qu'on connaît bien, qu'on suit partout, ces lunettes en forme de cœur, vous les portez aujourd'hui, les fameuses lunettes roses.
Pour mieux vous voir.
Pour mieux me voir à travers les bonnes couleurs. Ce qu'on a l'habitude de faire dans les voix nues, c'est de commencer en général par évoquer l'enfance. Suzy Morgenstern, mais peut-être pour commencer, comment est-ce que vous expliquez que vous, cette enfance, elle vous est suivie et que vous soyez resté fidèle à des choses de l'enfance que vous aviez en vous, alors que beaucoup d'adultes oublient ça.
Parce que peut-être j'ai l'âge mental entre 10 et 14 ans. Je me vois avec mes cheveux blancs, avec mes rides, et je me vois enfant. Je suis enfant, mais on a tous l'enfant en nous. Certains ont du mal à le faire vivre et moi j'ai peut-être du mal à faire vivre l'adulte. C'est mes enfants me reprochent de ne pas être adulte. Il faut quand même grandir dans la vie. Et je vis dans mon écriture, je vis et revis l'enfance.
Alors cette enfance, c'est une enfance américaine. Vous êtes née en 1945. Vous êtes née dans l'état du New Jersey?
À Newark.
À Newark.
Newark, vous savez qui est né à Newark? Philip Roth.
Ah.
Paul Auster. Harlan Coben.
Grand écrivain du roman noir.
Ouais.
Alors vous êtes née dans une famille avec un père, une mère, deux sœurs, c'est ça? Effie et Sandra, vous avez raconté partie de votre enfance dans un livre qui s'appelle La petite dernière. Est-ce que vous pourriez me parler justement de cette famille dans laquelle vous êtes née ? Votre père, votre mère, tous les deux juifs, mariage arrangé ?
Oui,
entre eux ?
Oui, oui, c'était un mariage arrangé. Ça s'appelle un chadren qui est venu à dire aux parents de ma mère, il y a ce garçon à Newark qui est très bien, qui gagne bien sa vie. Et ma mère a dit d'accord, sans le connaître. C'était un homme bon. Je pourrais pas écrire sur mon père parce que je le connaissais à peine. Il fuyait cette matriarcat. Il travaillait pour nous nourrir. Il était très gentil, très bienveillant avec nous, le peu qu'on l'a vu. On l'amusait, mais nous, c'était un monde de femmes à l'exclusion des hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, mes sœurs, ma mère, trouvait que les hommes étaient nuls et pathétiques. On était racistes, pratiquement, contre les hommes.
Comment est-ce que votre mère, qui pourtant, vous l'avez dit, avait épousé cet homme plutôt bon, a créé ce monde de la féminité?
Il fallait se marier. Moi, je me suis mariée à 21 ans, mes sœurs aussi. On était toutes les trois mères à 22 ans. C'était la culture. J'étais vierge à mon mariage. Ma mère, notre éducation sexuelle, c'était d'aller passer devant la maison pour les filles mères toutes les semaines en disant, voilà les filles, si un garçon vous touche, c'est là où vous allez finir. Et c'était sinistre, comme une maison hantée. Ça, c'était notre éducation sexuelle. Maintenant, je regarde l'éducation sexuelle sur Netflix. C'est tellement extraordinaire.
La série Sex Education.
Oui, Sex Education, oui. C'est extraordinaire. C'est tellement osé. C'est tellement audacieux. Je me sens assez poule mouillée par rapport à ça.
C'est une famille, donc, juive d'origine polonaise, pour certains, pas tous.
Mon père est né en Pologne, ma mère est née à Brooklyn, qui est peut-être la même chose. C'est de parents russes et traditionnalistes. Moi, je suis allée à la yeshiva, c'est-à-dire l'école juive. Je parlais l'hébreu avant, je lisais l'hébreu avant de lire l'anglais. Je parle yiddish, je crois qu'on peut dire que je suis juive à la racine carrée.
Par les deux parents. Et votre mère, en même temps, alors dans ce livre que vous avez écrit, La petite dernière, vous racontez que votre mère, finalement, elle a été poussée par ses parents à, en tout cas, peut-être pas faire des études, mais d'une certaine manière, à se réaliser. Qu'elle était un peu vécue comme l'intellectuelle de sa famille. Est-ce que c'est vrai?
Elle était l'aînée, elle était très douée, elle jouait du piano. Elle était la première femme de Brooklyn à avoir son permis de conduire. Et elle était certainement la première de la famille à aller à l'université. Oui, c'était quelqu'un de très doué, ma mère. Et une mère non conformiste. Et je la remercie. Nous, les filles, et surtout mes sœurs qui étaient inouïes, sortaient maquillés comme des vampires, avec des collants qui, à l'époque, étaient réservés aux danseuses. Et les voisins appelaient ma mère en disant, « Comment vous laissez sortir des filles comme ça ?» Et ma mère disait, et je l'entends encore, « Vous élevez vos enfants, moi j'élève les miens, au revoir. »
On vous élevait pour que vous vous mariez.
Ah oui.
Et en même temps, votre mère, on a l'impression qu'effectivement, elle s'accordait dans ce cadre-là grande liberté, et à vous aussi.
Oui, liberté de s'habiller, liberté d'être folle, mais nécessité de se marier. Il n'y avait pas d'autre alternative.
Liberté d'être folle, qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, on avait une chanson qu'on faisait avec mes sœurs. We are a little bit crazy. Bam, 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 bada, bam, 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 bada. Et on marchait comme ça. We are a little bit crazy. Bam, bam. Et on sautait dans la rue. Et puis c'était l'idéal d'être folle. Mon enfance et mes sœurs étaient vraiment folles, vraiment exotiques, fantastiques, farfelues, de très mauvaises élèves, les deux. Moi, elles étaient belles et moi, je ne l'étais pas. Alors, la seule façon pour moi de briller, c'était à l'école. Et je faisais leur devoir pour elle, contre des menus services. Il fallait rendre un compte rendu d'un livre toutes les semaines. Je faisais les livres de mes sœurs, qui avaient 5 ans de plus et 8 ans de plus.
Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ces deux sœurs? Parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est le cœur de votre vie. Ensuite, dans beaucoup de vos livres, il y a beaucoup de personnages où il est question de sororité. Il y a la fameuse famille Trop de filles, où il y a toute une ribambelle de sœurs. Là, vous en avez inventé d'autres, mais on retrouve certains traits de vos sœurs et de vous dans certaines de ces petites filles de cette série, où il y a, je pense, une dizaine de numéros, une dizaine d'histoires presque. Plus que ça.
Quelque chose comme 26.
Comme 26, ben voilà.
J'adore les écrire. Parce que justement, je suis dans les sœurs. Sœurs, pour moi, ça rime avec cœur. C'est le cœur de ma vie. Je parle avec ma sœur tous les jours, 2 fois par jour. Une sœur est morte.
Sandra.
Oui. Et elle ne voulait pas être vieille. C'était pratiquement... Elle disait toute sa vie, elle ne voulait pas être vieille. Elle disait, « I hate old ». Je déteste la vieillesse. Et elle est morte, pas diagnostiquée. On avait fait un voyage en Ukraine, un voyage racine pour voir où sont nés mes grands-parents. Et elle n'allait pas bien. Et puis elle est rentrée chez elle et elle est morte. Ma sœur Sandra, je rêve d'écrire un livre sur elle. Un livre qui s'appellerait quelque chose comme Ma sœur la pirate. Elle faisait des combines toute sa vie. Elle vivait avec rien. On savait jamais ce qu'elle allait faire. Et elle vivait comme ça. Le livre que j'ai commencé s'appelle Free of Charge. Vie gratuite. Et c'est comme ça qu'elle a vécu.
Ça
Mais en faisant des combines invraisemblables. Quel film ça serait?
La vie de Sandra.
Ah oui. Mais je ne peux pas le faire parce que. Et il y a son fils, ses petits-enfants. Je ne peux pas. C'est difficile d'écrire sur la famille. Moi, je suis à l'abri parce que j'écris en français. Mais mon neveu est le seul qui parle français.
Ah, donc il pourrait vous lire. C'est intéressant que vous disiez que c'est difficile d'écrire sur la famille parce qu'en même temps, on a cette impression que ces deux sœurs, votre mère, et cette folie, en tout cas ce goût de la folie, et ce sens du bonheur aussi, parce qu'il y avait ça, j'ai l'impression, dans votre enfance. Une capacité à créer le bonheur, d'une certaine manière, vous l'avez diffusé, ça irradie dans quasiment tous vos livres.
On chantait sans arrêt, ma mère jouait du piano, on dansait, on chantait, on allait à des comédies musicales tout le temps, on allait à Broadway toutes les semaines. C'était Je savais pas. Je suis née juste après la guerre. J'ai vécu quand même avec Anne Frank sur mon chevet, que je lisais et relisais. Et Anne Frank, c'était moi. Sauf que moi, je suis échappée belle. Mais c'était très gay chez nous. Très gay, beaucoup, très animé, très musical.
Vous avez joué, vous, d'ailleurs.
J'étais la première fille à entrer dans l'orchestre de jazz à Belleville High School. En Amérique, on donne des instruments, on vient dans les classes et on prête les instruments. Et comme j'étais la plus grande, ils m'ont prêté une contrebasse. Moi, je voulais le violon. Je suis petite fille des gens d'Odessa. Je voulais le violon, mais non, c'était la contrebasse. Et j'ai joué la contrebasse. J'ai gagné ma vie avec la contrebasse pour l'université.
Alors, on l'a entendu, votre père assez absent. Effectivement, vous dites que vous l'avez raté un peu.
J'ai raté. Je suis allée il n'y a pas longtemps au cimetière dans le New Jersey. Et j'étais très triste parce que ma mère, je la connaissais bien et mon père, pas du tout. Il n'y avait pas de dialogue. Il est très gentil, vraiment très doux et gentil avec nous, mais on regrette tellement dans la vie les questions qu'on n'a pas posées. Je ne sais pas son arrivée en Amérique. Surtout, je pose des questions sur ma grand-mère maternelle qui est venue en Amérique d'Odessa à 14 ans. Quelle était sa vie? À 14 ans, nos enfants ne savent pas traverser la rue. Et elle a pris le bateau tout seul, a gagné sa vie à New York et a fait amener le reste de la famille. Et je n'ai jamais posé une question. Je ne sais pas quelle était sa vie. C'est un grand, grand regret. C'est pour ça, dans tous mes livres, j'essaie d'inciter les enfants à poser des questions. Qu'est-ce qui est plus utile et important que de poser des questions?
Et il y a la sœur qui est juste au-dessous de vous, Effie, à qui vous semblez vouer une passion totale. D'ailleurs, beaucoup de vos livres lui sont dédicacés.
C'est vrai, vous avez bien dit, c'est une passion totale. C'est mon idéal d'être humain, ma sœur Effie. C'est ce que j'appellerais une sainte laïque. Elle est née le 17 mars et moi le 18 mars, à 5 ans d'intervalle. J'étais son cadeau d'anniversaire. Elle n'était pas très contente. Elle voulait une vraie poupée. Elle travaille encore à 80 ans. Elle est infirmière de métier, mais elle est le gestionnaire de divertissement dans un hôpital très particulier à Yad Eliyahu en Israël. C'est un hôpital avec des victimes des attentats, des soldats accidentés, des patients qui sont morts du cerveau. Et elle réveille les morts. Elle crée des happenings et des divertissements et elle les réveille. Elle fait l'impossible. Et puis, bon, à part ça, physiquement, elle est maquillée en néon. Elle a des boucles d'oreilles, indifférentes pour chaque oreille, des centaines, si ce n'est pas des milliers. Tout le monde lui amène des petits objets en plastique. Par exemple, dans une oreille, elle aura la toilette de la maison de poupée de Barbie. Et dans l'autre oreille, elle aura le biberon du bébé de Barbie. On devrait faire un inventaire. Je crois que je vais faire un inventaire.
Avez bien les listes en plus. Mais alors, dans l'enfance, qu'est-ce que ça donnait, ce fameux trio de trois sœurs? Qu'est-ce qui se passait entre vous? Et quelle était votre place dans ce trio?
J'étais la rapporteuse pour me faire bien voir par ma mère. J'étais quand je faisais des services à mes sœurs, elles étaient obligées de m'amener avec elles. Parce que ma sœur aînée conduisait déjà, et qu'est-ce qu'on faisait? On allait bouffer. Et puis quand on revenait, mes sœurs disaient any traces? il fallait tester la laine et voir si ma mère allait déceler qu'on avait mangé. Parce que ma mère, quand on avait des rencarts avec des garçons, ma mère nous attendait et elle demandait pas ce qu'on avait fait avec ces garçons. Elle nous demandait ce qu'on avait mangé. Et alors, mes sœurs me disaient, tu vas rien dire à maman, tu vas rien dire à maman. Et moi, j'ai toujours trouvé le moyen de dire qu'on est allé par-ci, on a mangé une glace.
Vous ne pouviez pas mentir?
Je ne sais pas si c'était anti-mensonge ou se faire bien voir.
De votre mère. Pourquoi c'était quoi cette histoire avec la nourriture? Il y avait évidemment des choses que vous n'aviez pas le droit de manger, comme du porc. Je crois que vous alliez manger des hot dogs, ce qui était tout à fait interdit, puisque c'était du porc et que vous étiez juive.
On était excusés pour les hot dogs.
Ah oui, c'était souple.
Non, on avait toujours un double standard. À la maison, c'était cachère, strictement cachère chez nous. Et ça l'est toujours chez moi, à Nice. Mais ma maison est cachère, mais pas mon ventre.
Dans cette enfance, il y a ce foisonnement, ce sens de la folie, du bonheur avec votre mère et vos deux sœurs, la musique qui est omniprésente, et deux découvertes, me semble-t-il, de choses importantes dans votre vie. Ça va être la découverte de la lecture et aussi la découverte du cinéma. Est-ce qu'on lisait chez vous quand vous étiez petite?
Seulement moi. Et c'était très mal vu. Je lisais, ma mère me disait, arrête d'arracher tes yeux avec ça. Et puis, elle avait peur que je trouve pas de mari, parce que les hommes n'aiment pas les intellectuels. Je me cachais pour lire. La lecture égalait à peu près les jeux vidéo d'aujourd'hui ou les séries. Je me cachais, je me vois encore dans l'armoire à lire. Ma mère lisait. Elle allait à la bibliothèque, on n'achetait jamais des livres. Elle n'était pas riche. Mais moi, les sous que je gagnais avec le babysitting ou les petits boulots que je faisais, j'achetais des livres, mais en cachette. À Dieu ne plaise que ma mère découvre ces livres. Parce qu'il y avait des bibliothèques.
Et vous y allez très souvent, je crois. Que vous épuisiez tous les records, c'est-à-dire tout le nombre de livres maximum qu'on peut emprunter en une semaine.
C'était un grand amour de ma vie, les livres. Grande histoire d'amour avec les livres. Alors, c'est assez... maintenant, c'est amour-haine. Parce que j'essaie de m'en débarrasser, j'arrive pas. Je donne des livres, ils sont partout. Quand ma sœur vient chez moi, elle dit, débarrasse-toi de tout ça. J'essaie, mais j'arrive pas.
Alors, c'est quoi votre premier souvenir? C'est quoi votre premier souvenir de lecture? Est-ce que vous arrivez à vous rappeler quand cette histoire d'amour a commencé avec les livres?
Je me rappelle, disons, CMA, d'avoir lu David Copperfield en classe, sous le bureau. Ça, c'était vraiment frappant. Et puis, j'ai commencé à sangloter en le lisant, et la maîtresse m'a dit, mais Susie, qu'est-ce que t'as? Et elle est venue et elle a vu que je lisais sous le bureau. Et j'étais grondée et ça m'arrivait pas souvent d'être grondée. Alors c'est un souvenir de péché, tu vois. J'aurais pu être en train de masturber. La réaction était tellement forte. Oui, la lecture était une passion interdite. Je lisais pas mal de livres pour adultes. Grand souvenir, c'est Marjorie Morningstar. Et j'écrivais mon nom partout, dans tous mes cahiers. Susie Morningstar, Susie Morningstar, Susie Morningstar. Et puis, j'ai vu mon mari à travers le Resto U à Jérusalem. Et je suis allée tout droit vers lui. Et je lui ai demandé son nom. Et c'était Jacques Morgenstern. Il m'a donné le nom que je m'étais donné.
Ah mais oui, l'étoile du matin, Morgenstern, c'est ça que ça veut dire.
Ouais.
Et votre idole d'enfant, c'était Morningstar, ouais, l'étoile du matin.
Ouais. Et j'écrivais Susie Morningstar, Susie Morningstar. Et puis, c'est un des trucs incroyables de la vie.
À quel moment vous avez commencé à écrire? Parce que lire ce livre a visiblement déclenché aussi une envie d'écrire. Est-ce qu'elle existait avant? Cette
Elle
idée d'un journal.
Avant, oui, j'ai écrit un journal intime à partir de l'âge de 7 ans. J'ai toute ma vie dans des cahiers. Les enfants me demandent souvent est-ce que vous avez toujours voulu être écrivain? Et je dis, c'est comme si tu me demandes si j'ai toujours voulu être femme. Je l'étais, j'avais pas besoin de le rêver. J'étais écrivain. Mais de là, de penser être écrivain, jamais de la vie. Ça, j'en suis sûre. Et être écrivain français, alors...
On en parle demain, justement, Susie Morgenstern, de comment vous êtes devenue et une femme, une épouse, comme c'était prévu, mais une épouse française, et comment, en plus, vous êtes devenue une écrivaine française. On en parle demain. Merci, Suzy.
Merci, Zoé.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Zoé Sfez avec Suzy Morgenstern. À voix nue, prise de son Yvan Turc, réalisation Guillaume Baldi, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.